Ce soir, je voudrais partager sur un thème et je vais qu'on prie. À la suite, nous allons prier. Le thème de ce soir, c'est le couturier maléfique. Je sais que tout le monde a un couturier ici. Tout le monde aime coudre des habits. Alléluia. Chaque jour, on essaye de se vêtir comme on peut. Alors, ce soir, je voudrais parler de cela et je voudrais qu'on ouvre notre Bible rapidement dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 21. Le couturier est maléfique. Alléluia. Certainement, tu te demandes, mais ça, c'est encore quel genre de message? Tu vas comprendre. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 21. Si tu y es, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits en revêtir. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. La portion de texte que nous venons de lire est liée à un ensemble d'événements. Et dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que l'homme, la Bible retrace le péché d'Adam. Alléluia, dans le jardin d'Éden. Et après que Dieu eut ce contact avec l'homme qui a reconnu son péché, pas reconnu dans le sens de la repentance, mais reconnu parce qu'il était face au Seigneur. Alléluia. Et que le Seigneur a pris un certain nombre de décrets concernant le péché, concernant l'action de l'homme, l'action de la femme, l'action du péché, du serpent. La Bible dit qu'à la suite de cela, l'Éternel va faire un vêtement à Adam et Ève. Rappelez-vous qu'ils étaient nus au départ. Alléluia. Rappelez-vous qu'ils étaient nus et lorsqu'ils vont pécher, eux-mêmes vont prendre des feuilles d'olivier et se recouvrir avec. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ils vont se recouvrir avec des feuilles d'olivier afin de pouvoir dissimuler leur nudité qu'ils avaient. Qu'ils s'étaient rendus compte, les feuilles de figuier plutôt. Vous allez voir ce verset 7 du même chapitre 3. Alléluia, des feuilles de figuier. Et il a dit que cela avait pour but de cacher leur nudité qu'ils venaient de se rendre compte qu'ils avaient, alors qu'avant sept péchés, ils ne s'étaient jamais rendus compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Et la Bible dit que le diable leur a parlé et ils sont entrés donc dans cette désobéissance. Et à cause de leur désobéissance, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Bien aimé, chaque fois que la Bible parle de nudité, il s'agit de quelque chose qui a trait à la honte. Alléluia. Il s'agit de quelque chose qui a trait à la honte et qui signifie également que la couverture a été ôté, enlevé, et que l'homme est devenu sans. Avant cet incident, l'homme était revêtu de la vie. Avant cet incident de péché, Dieu a revêtu l'homme de loi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Mais après le péché, l'homme a été, le vêtement de gloire lui a été ôté, et il s'est retrouvé nu. Et ça, la Bible, lorsque le Seigneur va lui dire, où es-tu? Il va dire, j'ai entendu ta voix, j'avais eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. La honte. À cause du péché d'Adam et Ève, la gloire de Dieu leur a été enlevée, devenue nue. Ont pris un figuier pour se couvrir. Le figuier ne pouvait pas les couvrir complètement. C'est qui est un figuier de silence. A fait un vêtement de peau et les a habillés. Lorsqu'ils ont revêtu la couverture fabriquée par Dieu, ils ont été forte. Vous rappelez? Verset 22. Alléluia. Après qu'ils ont porté ces deux autres ces nouveaux vêtements pour eux, avec peau d'animaux, ils ont se senti plus à l'aise. Pourquoi? Parce que ces vêtements en peau ressemblent à leur peau. Alléluia. Mes bien-aimés. Alors, lorsqu'ils ont revêtu la couverture fabriquée, ils ont été réconfortés. Et cette couverture, c'est un symbolisme qui devait se passer la croix du calvaire. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la justice de Dieu nous est imputée par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous sur le calvaire. Alors, tout comme le diable, tout comme Dieu est le couturier dans Genèse chapitre 3, le verset 21, le diable est aussi un couturier. Le diable est aussi un couturier. Il crée et porte et fait porter des vêtements maléfiques aux hommes. Certaines personnes se déplacent en portant différents vêtements maléfiques spirituels. En règle générale, ce que vous portez dans le monde spirituel détermine ce qui vous suit. Alléluia. Détermine ce qui vous suit. Allez-vous, pour pouvoir tuer Joseph, on a dû le déshabiller. On a dû lui ôter le vêtement de multiples couleurs. Alléluia. Pour pouvoir tuer Jésus, on a passé son vêtement au sort. Il y a des vêtements que lorsque tu les portes, aucun danger ne peut t'arriver. Mais il y en a d'autres qui attirent des dangers. Qui attirent des dangers au devant de ta vie. Qui te met dans des circonstances où ta vie devient vulnérable. Rappelez-vous dans l'histoire de Bartimée, le mendiant. Pour pouvoir approcher le Seigneur après que le Seigneur lui ait appelé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il jeta son vêtement. Il s'était rendu compte qu'à cause de ce vêtement, la mendicité, l'aide qu'on lui donnait, s'est transformée en mendicité. Bien-aimé, il y a un certain nombre de vêtements que lorsque tu portes, même si on t'apporte quel type d'aide, ça ne t'aidera jamais à cause du vêtement qui est sur ta vie. Alléluia. Alors, l'un des vêtements fabriqués par l'ennemi est le vêtement de deuil, le vêtement funéraire. Alléluia. L'ennemi peut s'aimer des vêtements de tombe, de deuil, et les donner à quelqu'un pour qu'il les porte. Dans Jean chapitre 11, le verset 44, nous pouvons déduire que quelqu'un avait fabriqué le vêtement funéraire qu'il a donné à Lazare. Alléluia. Qu'il a donné à Lazare. Rappelez-vous, lorsque Jésus arrive devant la tombe, il dit, Lazare, sors. Après, il dit, déliez-le. On l'avait bandé. Les bandes, là, étaient un vêtement funéraire. Alléluia. Il y a des gens qui ont des vêtements funéraires. Ça fait qu'ils ne se retrouvent qu'au milieu des morts. Lorsqu'ils dorment, ils se retrouvent avec des morts, des parents morts, des amis morts. Ils n'ont même pas besoin de connaître la personne. Alléluia. Même s'ils passent dans un quartier, qu'ils voient un cadavre, même pas lié à la personne, ils en rêvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de ce vêtement, le vêtement, je dis, ça se connecte partout où il y a la mort. Vous allez voir de telles personnes lorsqu'ils ont ce type de vêtements. Ils sont aussi habités des pensées de suicide. Alléluia. Des suicides et des dépressions permanentes. Des dépressions permanentes. Vous devez savoir que la dépression est le premier stade de la mort. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un homme se voit avoir des tendances suicidaires, manger ou communiquer avec des morts, voit un cercueil dans son rêve, cela peut être un signe que la personne a reçu des vêtements de deuil. Et tant que ce vêtement n'est pas ôté à cette personne, rien ne l'empêchera de vivre la mort ou lui-même de passer par la mort. Alléluia. Un autre vêtement qui est cousu par le couturier, par l'ennemi, c'est le vêtement de prisonnier. Alléluia. Le vêtement de prisonnier. Lorsqu'un homme porte un vêtement de prisonnier dans un lieu, il est à facilement identifié comme un prisonnier. Tant qu'un homme est dans le monde spirituel, il demeurera un esclave. Il sera un esclave ou un esclavage. Genèse chapitre 14. Lorsque José était sur le point d'être extrait de la prison, oui, mes bien-aimés, lorsqu'il devait être extrait pour être conduit devant le roi, la Bible dit qu'on va lui, on va le raser et changer de vêtements avant de le présenter à Pharaon. Et changer de vêtements. Fit que quoi, bien-aimé? Joseph, vêtements, dernier. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont un niveau d'élévation dans lequel ils se retrouvent. Ils ont toujours une attitude de prisonnier, d'esclave, de serviteur. Alléluia. De serviteur. De serviteur. La raison pour laquelle Joseph ne pouvait pas aller devant Pharaon avec ce vêtement de prisonnier était que c'était une erreur de porter un vêtement de prisonnier dans le palais. Tu ne peux pas entrer au palais avec un vêtement de prisonnier. Rappelez-vous cet homme qui s'est retrouvé au milieu d'une fête avec un vêtement qui n'était pas conforme. Alors que le roi avait demandé de prendre tous ceux qui étaient dans la rue. Cette parabole de Jésus. On est allé prendre tout le monde. Et le roi, lorsque la salle était pleine, la Bible dit que le roi est passé, saluer les invités, marcher au milieu. Il a trouvé un gars qui était au milieu. Toi, tu fais quoi là? Quel est ce vêtement que tu portes? Il dit non, mais on a dit que tout le monde entre. Il dit non. Portez-le et jetez-le dehors. À cause de quoi? Son vêtement. Quel vêtement portes-tu? Quel vêtement portes-tu? À cause de ce vêtement de prisonnier, tu es disqualifié pour la grandeur. À cause de ce vêtement de prisonnier, tu es programmé pour la honte et l'humiliation. Parce que c'est ça qui est le lot des prisonniers. Le lot des prisonniers, c'est la déception. C'est les fausses accusations. Alléluia. Les fausses accusations, c'est la calomnie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, vous devez savoir que le vêtement que vous portez vous donne une identité. Le vêtement que vous portez vous donne une identité. Et une autorité. Et une autorité. Rappelez-vous dans le livre de Zacharie 5, il y est fait mention d'un homme qui s'appelait Josué, qui était devant Dieu pour chercher l'intercession, certainement en faveur de Jérusalem, certainement en faveur d'Israël. La Bible dit que son intercession n'allait pas loin à cause des vêtements qu'il avait sur lui. Des vêtements qu'il avait sur lui. Il a beau prier. Et le Seigneur va dire à l'ange, ôtez-lui ce vêtement. Alléluia. Alléluia. Qu'il portait ses vêtements, même son intercession est une malédiction. Il y a des vêtements qui te disqualifient même dans la présence de Dieu. Josué était disqualifié dans la présence de Dieu à cause des vêtements qu'il portait. Vêtements qu'il portait. Alléluia. Bien-aimé. Le vêtement que tu portes te donne une identité, une autorité et permet à quelqu'un de déterminer facilement ton statut. Dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas porter le vêtement de la servitude et vous attendre à ce que l'homme fort de la maison de votre père vous respecte. Alléluia. Bien-aimé. Un autre vêtement que l'ennemi fabrique à l'endroit des hommes, le vêtement de la pauvreté. Le vêtement de la pauvreté. Sans que vous portez le vêtement de la pauvreté, vous êtes réduit à l'état de mendicité, de mendiant. Peu importe ce que vous possédez, les forces du mal s'assureront de vous réduire à zéro en faisant chuter vos affaires et en frustrant le travail de vos mains. Alléluia. Quelqu'un qui porte le vêtement de la pauvreté ne devient jamais riche. Parce que le diable apporte toujours un problème ou l'autre pour lui soutirer de l'argent. Alléluia. Dans le livre des Cantiques, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon raconte l'histoire d'un homme, d'un sage pauvre qui va délivrer toute une ville de l'embargo. Mais à cause de sa pauvreté, on l'a oublié. Alléluia. Ah, la sagesse d'un homme pauvre n'est pas profitable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Oui. La Bible dit qu'il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Oh mon Dieu! Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Bien-aimé, je prie pour toi aujourd'hui. Tout vêtement de pauvreté sur ta vie qui fait que ta voix n'est pas entendue, qui fait que ta voix n'est pas audible, qui fait que ta table est déchirée, de Jésus, est déchirée de vêtements de prêté, qui te méprise, qui est ton suicide, qui a-t-il une loi? Je commande le jugement. Je commande le jugement au nom de Jésus. La pauvreté. Vous voyez cette histoire? Un homme pauvre a délivré une ville, mais ça, lui est pas, ça n'a pas été pour lui profitable. Parce qu'il était pauvre. Alléluia. Parce qu'il était pauvre. Mais bien aimé. Vous devez savoir que parmi les vêtements les plus dangereux que l'ennemi associe aux hommes, il y a le vêtement de la pauvreté. Rappelez-vous, dans le livre de Jean, un Jean, le Seigneur dit que quoi? Il souhaite que nous fassions quoi? Que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Ça veut dire le désir du Seigneur, c'est qu'on ne soit pas pauvre. Non. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1, le verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il bénit l'homme. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle enrichit. Je ne dis pas elle enrichit pour que tu deviennes un multimilliardaire en termes financiers, non. Mais que tu aies de quoi prendre soin de toi et de tous les engagements qui sont autour de ta vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu manques de manière à ne même pas prendre de ne pas honorer les engagements autour de ta vie, bien aimé, ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Le mépris va être ton pain quotidien. Tu vas être honoré. Alléluia. Adieu la vie. On ne s'est pas souvenu de lui. La même chose va se passer avec Mardochée. Mardochée va délivrer le roi d'un complot. Mais on va l'oublier. Je restais où il était. C'était un portier. C'était un vigile. Il avait 30 000 à la fin du mois. Il a fallu que Dieu intervienne. Dieu enlève le sommeil dans les yeux du roi pour qu'il demande qu'on lise les archives. Heureusement pour Mardochée, il y avait des archives. Pour le pauvre que je vous ai dit, il n'y avait aucune archive. Que le Seigneur se souvienne de toi. J'ai dit que le Seigneur se souvienne de toi. Alors que tu te prépares à entrer dans cette nouvelle année, qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus. Qu'il se souvienne de ta famille au nom de Jésus. Qu'il te souvienne de ton dur labeur au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, quand on parle de vêtements de vérité, pour certains, ils peuvent voir l'argent. Ils ne peuvent pas rester avec. Alléluia. Ils gâchent, mais il n'y a rien à montrer après. L'argent s'évapore au même moment que ça rentre. Ils ont juste le temps de constater qu'il y avait de l'argent. Et puis, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne peut pas montrer un mur de la maison qu'il a décoré avec l'argent. Alléluia. Pour d'autres, l'argent ne rencontre pas l'argent dans leurs mains. Oui, bien-aimé. Pour d'autres, quand l'argent ne vient même pas, il n'y a même pas d'argent. Si l'argent en main n'est pas terminé, il n'y aura pas d'argent frais. Pour d'autres encore, l'argent leur arrive en cacahuète. Vous voyez? Tu demandes, quelqu'un vient et te dit, s'il te plaît, prête-moi 2 000, prête-moi 100 000. Tu dis, je te remets une semaine. Quand tu lui donnes tes 100 000, il te donne 1 000 francs jusqu'à ce que tu en mets. Alléluia. Tu ne peux rien faire avec. En cacahuète. Chaque fois que tu cries, dis, prends le rang. Même quand tu constates sa situation, tu réalises qu'il ne peut pas qu'il a là devant toi. Il n'est pas de mauvais. C'est l'esprit de pauvreté. C'est le vêtement. C'est le vêtement. Alléluia. Il y en a d'autres. Lorsque l'argent rentre, c'est chaque fois que l'argent rentre dans leur vie, ça n'attire que les problèmes. Tant qu'il n'a pas d'argent, il est en paix. Il n'y a pas de maladie. Il se bat, il paye son loyer. Mais dès qu'il a une opportunité financière, une maladie qu'on ne pouvait même pas s'attendre, le genre cancer, le genre tumeur, le genre myome, le genre hypertension, soit sur lui, soit de quelqu'un proche à lui, de manière à ce que cet agent, il ne puisse rien faire que de combler les défaillances des autres avec. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Que ce vêtement prenne feu. 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 Au nom de Jésus. Vous allez voir, pour certains, dans certaines familles encore. Pour d'autres encore, dans certaines familles. Reconnaître ce vêtement de pauvreté, c'est lorsque personne ne peut aider l'autre. Tout le monde est tellement dans le manque que personne ne peut tendre la main à l'autre. C'est compliqué. Lorsque quelqu'un lève la tête, tout le monde le presse jusqu'à ce que ça sèche et on tourne et on tourne. Personne ne peut tendre la main à l'autre. Alléluia. Personne. Tout le monde est en Égypte. Tout le monde est dans la servitude. Tout le monde. Bien-aimé, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Pour d'autres encore, lorsqu'ils portent le vêtement, il fait chaque fois qu'il veut entrer dans une porte qui va changer tout le courant. Il est loin de vouloir se réjouir. Là où il chute, paf, c'est fini. Il retrouve la place qu'il avait au départ. Alléluia. Il n'avait fait aucune économie. Il n'avait fait aucune épargne. Il espérait que lorsqu'il va atteindre cette porte-ci, on appelle ça l'échec à la porte du succès. C'est un vêtement lié à la pauvreté. L'objectif, c'est d'étendre ta corde de manière à ce que tu crois qu'on ajoute chaque jour un mètre. Tu crois que tu es libre. Alléluia. La liberté du chien est liée à la longueur de sa corde. Chaque jour, on ajoute un mètre. Il peut arriver à la porte. Il croit qu'il est déjà libre. Le jour qu'il saute pour arriver à la porte, la corde le retient. Il dit, hey, je suis encore prisonnier. On dit, oui, tu croyais que quoi? On t'a juste donné un peu de force pour que tu respires 2 jours. Alléluia. Un autre vêtement de l'ennemi court à l'endroit des hommes. Le vêtement de l'infimité. Alléluia. Le vêtement de l'infimité. Il s'agit du vêtement de la maladie, de l'oppression. Le vêtement de la maladie, de l'oppression, de manière permanente. Dans le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible parle d'une femme possédée d'un esprit qui la rend infime. 18 ans. La Bible dit qu'elle était coupée et ne pouvait du tout se redresser. Et Jésus est venu dans cette ville. Jésus est venu dans cette synagogue pour adorer comme c'était à sa coutume. Et lorsqu'il va arriver, il va trouver cette femme. Et il va prier pour la délivrance de cette femme. La Bible dit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Vous voyez, la femme était liée par le vêtement de l'infimité. Mais Jésus a dû la détacher avant qu'elle ne devienne libre. Lorsqu'un homme ou une femme porte un vêtement d'infimité, il lui est possible de prendre des médicaments sans solution. L'infimité, c'est quoi, bien-aimé? C'est un esprit qui t'a gardé une posture limitée dans ta vie. Une posture limitée. Tu es à un certain niveau. Alléluia. Si chapitre, nous verrons que Zacharie va nous raconter l'activité des corps malades. Un but spécial. Regardons ensemble. Alléluia. Amen. Ton âme. Zacharie. Où est-ce que... Zacharie chapitre 1, s'il vous plaît. Zacharie chapitre 1, oui. Voilà, verset 21. Il dit, j'ai dit, que vient-il faire? Il dit, ce sont les camps qui ont dispersé Judas. Tel nul lève de la tête. Oui, bien-aimé. Quand ce vêtement est sur ta vie, tu ne peux pas lever la tête. Ce vêtement, tu ne peux pas lever la tête. Cette femme était courbée et ne pouvait pas se redresser. Il y a des gens comme ça dans la vie. Nous ne parlons pas ici d'infimité physique. Nous parlons ici d'infimité spirituelle. Alléluia. Quand tu ne peux pas lever la tête, ça veut dire que tu ne peux pas être une bénédiction pour quelqu'un. Même pas pour toi-même. Même pas pour toi-même. Tu deviens dépendant aux autres. Tu deviens quelqu'un qui dépend des autres, de l'aide des autres, alors que tu as tout le potentiel. Allez-vous, je crois, de Marc chapitre 5, du Gadaréen, le fou. Car c'est tout qui avait la délivrance. Il avait la clé des 10 villes, de la délivrance, du salut des 10 villes. Mais il était fou. Mais il était fou. Il vivait dans les cimetières. Il y a des hommes, il y a des femmes comme ça qui possèdent la délivrance d'une famille, mais ils sont fous, mais ils sont infimes, mais ils ne peuvent pas se redresser. L'ennemi se rend qu'ils portent un vêtement d'infimité qui a paralysé leur destinée. Le stress dans cette âme, personne ne peut aller dans la famille. Personne ne peut émerger dans la personne dans la famille. Ah, je prie pour toi ce soir. Toute activité de ce vêtement qui a paralysé ta vie, paralysé tes affaires, paralysé tes activités, paralysé la vie de tes enfants, je commande le feu au nom de Jésus. 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 Sois-toi bien-aimé. Vous voyez ce vêtement d'infimité. Personne ne peut lever la tête. Est-ce quelqu'un avec moi? Il est des gens que nul, tellement que nul, ne lève la tête. Si tu ne lèves pas la tête, comment tu vas aider quelqu'un? Comment tu vas aider ton frère? Comment tu vas aider ta soeur? Comment tu vas aider ton mari? Comment tu vas aider ta femme? Il faut que tu lèves la tête. Je dis, il faut que tu lèves la tête. La Bible dit, Jésus, la Bible dit dans le livre de Luc 13 que cette femme ne pouvait pas se redresser. Alléluia. Si vous lisez le verset 16, Jésus va dire quelque chose. À la suite de ce que les chefs des synagogues, le chef de la synagogue, indigné, va s'opposer à la guérison de cette femme. Jésus va dire, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Satan tenait liée. Tout le monde croyait que c'était l'infimité. Oh, Satan l'avait liée. Alléluia. Regardez comment elle était. Elle était baissée comme ça. Écoutez. Le chien marche comment? Il est courbé. Pour que l'ennemi puisse maintenir ta vie dans cette attitude, il te donne une position de soumission. Il avait donné à... Elle était servante dans l'église. Elle était servante dans la synagogue. Elle servait au pied de son pasteur. 18 ans. Le jour qu'on prie pour elle, pour sa délivrance, son pasteur n'est pas content. Est-ce quel pasteur? Est-ce quel pasteur? C'est son pasteur qui dit non! Il y a des gens qui nous confèrent des vêtements d'infimité. Il y a des gens qui se plaignent tant que tu n'as pas de travail. Tant que tu n'as pas d'argent. C'est tu es sa fille. Mais le jour que tu auras de l'argent, il va te traiter d'autre chose. Alléluia. Je me souviens d'un pasteur qui priait pour sa fille. Elle s'appelait Samedi. Et Dieu lui a ouvert une excellente porte. Et Samedi ne venait plus à l'église. Le travail. Un jour, il a retrouvé ça. Elle est venue lui rendre visite. Il dit, Samedi, je ne te vois plus. Je ne te vois plus, ma fille. Tu ne viens plus à l'église. Comment, papa, le travail? Il dit, Samedi, je vais prier que tu m'aides le travail, tu reviens à l'église. Et que ta fille va venir à l'église. Vous voyez? Il y a des pasteurs. C'est un donné pour venir rester à côté d'eux. Que c'est la beauté. Bien, vous pouvez le battre. L'église va fonctionner. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église va fonctionner. Ah, mon fils, ma soeur, je le vois même une fois après 6 mois. Alléluia. Mais chaque jour qu'il était ici, mon cœur était triste. Parce que tu m'aimes, c'est même quoi cette histoire? Je prie le gars tout devant moi. Alléluia. Si je prie pour toi, tu es toujours là. Non, 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 non ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne va pas. Il faut que ta vie grandisse. Il faut que tu montes, tu expérimentes Dieu, tu expérimentes la fidélité de Dieu dans ta propre relation avec lui. Et que d'une manière délibérée, tu décides de dire, Seigneur, je t'aime malgré tout ça. Alléluia. Là, tu atteins le bon niveau. Mais si tu sais Dieu à côté de moi parce que tu n'as rien, ton service n'est pas encore bon. Même Dieu a appelé Élisée alors qu'Élisée avait le travail. Élisée ne se baladait pas. Hein? La Bible dit qu'il labourait. Hein? Ça veut dire qu'Élisée était riche. Dieu a appelé Pierre et les autres le lendemain de la pêche miraculeuse. Donc il y avait les ronds. Allez à Kribi, la saison des débarcadères. Allez voir comment les Kribiens sont riches. Ils s'asseyent, c'est comme ça. Un homme s'assoit comme ça, les bateaux montent, 3 millions de francs dans sa poche. Une demi-journée, on prend 3 millions. C'est pourquoi les gars-là ne cherchent pas le travail. Hein? Parce que l'océan est le milliard. Il part la veille, il dort dans l'eau. Le matin, il revient avec les bateaux. 3 millions dans sa peau, ça soit, il est content. Tu vas dire à celui que, oh, c'est pourquoi les gars-là t'insultent pour rien. T'insultent pour rien. Qu'ils ont l'argent, ils t'insultent. Mais quand ils n'ont plus l'argent, ils te cherchent. Ils disent, parlons bien, j'ai 3 hectares là, tu as combien? Donne-moi, tu prends le terrain. Il vend tout. Il vend même la tombe de son père. Il dit, mais il y a la tombe dessus. Il dit, laisse, il va enlever les eaux. Tu veux le terrain, non? Alléluia. Dieu bénisse son frère de ce côté. Alléluia. Et bien aimé, le vêtement de l'infimité paralyse la destinée d'un homme, paralyse le potentiel d'un homme, paralyse les capacités d'un homme. Bartimée était couché. Jusqu'au jour où il a dit, ah, Jésus, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, il a dit, l'histoire d'infimité, c'est, je suis fatigué. Alléluia. On est mendiant aveugle. Mendiant aveugle. Alléluia. Mendiant aveugle. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Marc 10. Regardons à partir du verset 46. Alléluia. Marc 10, le verset 46. La Bible dit, ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Est-ce que vous avez lu? Mendiant aveugle. Ça veut dire qu'il avait deux qualificatifs. Il était mendiant. Il avait deux problèmes. Mendicité et aveuglement. Ok. Il n'avait pas un problème. Deux. Il y avait un problème qui dépendait de lui. La résolution dépendait de lui. Et un autre problème, la résolution dépendait de Dieu. Alors, regardons. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait qui? Ah, ce n'est pas le mendiant aveugle. Il a pris. Là, ça veut dire qu'il avait compris que le premier problème, il pouvait le résoudre par lui-même. Maintenant, regardez la suite. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50 dit que quoi? L'aveugle fait comment? Il a compris que la mendicité, là, lui-même peut gérer ça. Il y a des infirmités que toi-même, tu as la capacité de t'en délivrer. Alléluia. J'entends le vent. Juste en prenant conscience. Juste en prenant conscience de la situation. Juste en refusant ton statut. Alléluia. Maman m'a envoyé une vidéo tout à l'heure que j'ai écoutée. Un homme qui faisait une interview, il disait, dans son interview, quand il a rencontré sa femme, il a dit à sa femme, tu viens d'une famille pauvre. Moi, je viens d'une famille pauvre. Et si on s'associe, on doit être... Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, on doit être riche. Il dit, pour être riche, on doit changer notre mentalité à 120 degrés. Et sa femme a dit, OK. Il a pris les livres. Il dit, voilà, j'ai lu 150 livres. Tu dois lire chaque livre. Tu dois lire les mêmes 150 livres pour qu'on change à 180 degrés. Et aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Ils n'ont pas jeûné et prié. Ils ont changé leur mentalité. Batima a changé sa mentalité. Batima a changé sa mentalité. Vous savez, il y a un piège dans le ministère de la délivrance. C'est qu'on croit qu'on va être délivré de tout par la prière. Il y a des choses que toi-même, tu dois te lever. Et dire, ça va. Maintenant, si je prends ma vie en main. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prends mon histoire. Je suis fatigué. Je pose des actions qui vont parler en ma faveur. Qui vont être un point de contact pour que le ciel me soit favorable. Bien-aimé, vous venez de lire Bartimée. On n'a pas parlé de mendiant Bartimée et venir vers Jésus. Jésus a réglé le problème de l'aveuglement. Bartimée a réglé le problème de la mendicité. Le problème que tu as résolu. Quel est le problème que tu as? Bartimée, avant qu'il ne connaisse Jésus, aimait raconter sa triste histoire. Ouais, qu'est-ce qui t'a rendu aveugle? Ouais, un beau garçon comme toi. Oh! Dans ma famille, personne ne m'aime. Ça fait 500. Alléluia. Il y a des gens qui vont te donner l'argent de la mendicité à cause de l'histoire que tu leur racontes sur ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux aller loin, ne raconte pas ton histoire à tout le monde. Même Mardochée a dit à Esther, cache ton histoire. Est-ce que quelqu'un me dit, me comprend? Il a dit à Mardochée, il a dit à Esther, Esther, chante. Même le nom, il a dit, prends leur nom. Esther, c'est le nom qu'elle a pris. Son nom n'était pas Esther, son nom était quoi? Adassa. Il a dit, change de nom. Personne ne doit connaître ton histoire. Personne ne doit connaître d'où tu viens. Personne ne doit connaître par où tu es passé. Affronte ton futur sans considérer ton passé. Et nous tous, nous connaissons qu'est-ce qu'Esther est devenue. Une grande femme. Une grande chef d'État dans sa saison. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimé. Arrête d'aller raconter ton histoire pour que les gens aient pitié de toi et t'aident. Non, ce qu'ils te donnent, c'est la moquerie. Est-ce que quelqu'un me suit? Même s'ils te donnent 1 million, ils s'est moqué pour 2 milliards. Ils s'est moqué. Et comme il t'a donné là, sache que le jour où vous aurez un problème, il va raconter à tout le monde entier. Vous voyez ce qui est devenu, c'est moi. Remets-moi ce qu'il t'avait donné. Tu fais comment? J'avais moi tout vêtement d'infimité. Attaché à ma destinée. Attaché à ma vie. m'attacher à mon futur. Qu'est-ce que tu attends? Prends feu! Prends feu! Prends feu! Prends feu! Prends feu! Prends feu! Assois-toi, bien-aimé. Rappelez-vous l'histoire que je viens de vous raconter, cet homme pauvre. Qui a dit à sa femme, tu viens d'une famille pauvre. Moi, je viens d'une famille pauvre. Mais on doit devenir riche. Personne ne se marie pour accroître sa pauvreté. Mais tu restes seul. Et ça, on est ensemble. Quand tu te maries, c'est pour que ta vie soit meilleure, n'est-ce pas? Tu ne te maries pas pour être plus pauvre qu'au début. Tu vas arrêter l'homme ou la femme va t'arrêter le matin et dire que papa, ta paix est grave. Je me souviens de ce pasteur, papa Joshua Nguila, quand il commençait sa deuxième ou troisième église, il dit qu'un jour, un de ses fils spirituels est venu le voir, dit, Daddy, je vais te parler. Il dit que ok. Il dit, ta paix est grave. J'ai jamais vu là une pauvreté aussi cruelle. Je suis que Dieu t'a appelé. Il a commencé à pleurer seulement. Que tu es mon fils spirituel. Dieu dit non, 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 je ne suis pas ton fils spirituel. Non, 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 pas la qualité si. Tu croyais que l'air est abondé. Et l'autre de son fils spirituel venu lui a dit, papa, je crois au Dieu qui sait. Et juste le lendemain sera meilleur. Et cet homme est allé faire le manœuvre dans les chantiers, faisait les manœuvres dans les chantiers. Et il venait donner son salaire à son père. Il dit, prends soin de maman et les enfants. Comme ça, pendant plus de 3 ans. Même son bailleur l'a donné le forfait. Le bailleur! Le bailleur lui dit, j'ai une maison là, ça ne sert à rien. Tu peux aller habiter là-bas. Et la vieille maison en. C'était un niveau des problèmes. Hein. Même les fantômes te fuient. Il dit vraiment, chez celui-ci. Encore une fois, là, ta vie, c'est foutu. Mais aujourd'hui, cet homme est devenu prospère. L'année où je suis parti, on est parti à l'anniversaire de son église, maman et moi. Le jour-là, il a appelé le frère qu'il avait pris soin pendant 3 ans, son fils-là, qui était parti après. Il a cherché, il a retrouvé. Mais dans le secret, il a construit un duplex. Et le jour de l'anniversaire, le gars était là. Il ne savait même pas ce que son père l'avait prévu. Il a appelé devant. Il a dit, je voudrais dire merci à un de mes fils qui a cru en moi. Dans les moments de difficulté, il a pris soin de moi et de ma maison. Il a dit, mon fils, lève-toi. Il a pris les clés de la maison. Il a demandé qu'on projette la maison sur l'écran. Le gars a fait le péroulé. Il est quitté d'un bout de l'église. Il a atterri de l'autre côté. Quand il s'est réveillé, il a cru que c'était le rêve. On dit, frère, c'est vrai. Il a dit, il a rampé au pied de son père. Rampé. C'était une bénédiction. Tu ne sais même pas comment tu as la force de faire ça. Hein? Normalement, si on te dit de faire les pompes, tu ne peux pas faire. Amen. Toi-même, tu sais que même un, tu es déjà à terre. Alléluia. Le jour où il a rampé, il est venu. Il a dit, mon fils, lève-toi. Tu as fait du bien à ma vie. Et j'ai prié le Seigneur de me donner l'opportunité d'être reconnaissant. Il a appelé sa femme. Il a dit, donne-moi les clés de la dîme. Le gars a dit, là, c'est gâté. Là, c'est gâté. Danser le dépassé. Il se les touches. Il y a de joie que les touches tu inventes, frère. La danse, non, tout marche. Après, quand il lui a remis les clés, il lui a dit, à partir de maintenant, jusqu'à ce que ta vie s'achève sur la terre. Je m'engage à te donner un salaire de telle somme d'argent chaque mois. Moi et mon église. Est-ce que vous comprenez? Le jour-là, il a offert 30 voitures à 30 de ses enfants. 30. Il avait aligné ça dans le parking. Quand on est arrivé, touché une voiture, il dit, Seigneur, mon nom sera dans la liste. Alléluia. En même temps, il réfléchissait que si ça sort, je vais dédouaner comment? Mes problèmes augmentent. Alléluia. Mes problèmes augmentent. Bête, il me donne l'argent. Alléluia. Je change à l'aéroport. Allez-vous. Il ne me connaissait pas personnellement. Amen. Et plus de deux fois, plus de trois fois que je suis venu à l'anniversaire de l'église, il offrait les voitures. Jusqu'à aujourd'hui, il offre les voitures à chaque anniversaire. Il offre les voitures. Et c'était la première fois que j'ai vu ça. Un frère de l'église qui était là depuis le commencement de son ministère, il est infime de pied. Le frère dansait, avec sa bière et sa femme. Donc, il regarde comme s'il dit, c'est pas vrai. Quand il a pris le micro, il allait vers lui, il dit, frère, il a pris sa voiture, il lui a donné. Il est rentré avec la voiture de son fils. Il lui a donné la voiture. Le père a fait le film, a fait les péroulés. Ouais. J'ai pas. Est-ce que tu avais un infime qui fait les péroulés? Il l'a fait. Ah, Jésus. Miracle. Sa femme était là, sa femme a pleuré. Il a dit, cet homme a été depuis au commencement de cette œuvre, il a été fidèle. Et aujourd'hui, cette œuvre, Dieu est en train de l'amener très loin. Tu l'as honoré devant toute l'Église. Et ils ont fait de l'argent, je crois, 3 millions de naira. De ce moment-là. Ouais. Elle dit comme ça que quoi la peur, c'est souffrant. Ce n'est pas moi qui vais te donner l'argent pour te délivrer des problèmes. Je ne me garde pas. Alléluia. Je vais aller. Non. C'est lui. Ce n'est pas moi. Pas quoi? Non, moi, j'ai pris pour toi. Alléluia. La prière est suffisante. La prière est suffisante. Comment d'abord va prendre soin de moi, on va voir après. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bien aimé. Ces vêtements-là sont des vêtements qui viennent troubler la destinée des hommes. Rappelons-nous, premier vêtement, le vêtement du deuil. Deuxième vêtement, le vêtement de prisonnier. Troisième vêtement, le vêtement de pauvreté. Quatrième vêtement, le vêtement de d'infimité. Alléluia. D'infimité. C'est un vêtement, les vêtements d'infimité, il s'agit ici des vêtements de maladie, d'oppression. Alléluia. Et un dernier vêtement. Le vêtement de la tristesse. Alléluia. Des pleurs et des lamentations. Vêtements des pleurs et des lamentations. Vous voyez? Il y a des gens, à cause de ce vêtement, leur vie est devenue une vie de douleur. De douleur. Job chapitre 16, le verset 16. Job 16, 16. Il dit quoi? Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Et l'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourquoi? Les pleurs. Les pleurs, les pleurs. David dit, la nuit, la couche est baignée de mes larmes. mon lit est arrosé de mes pleurs. Psaume 6, verset 7. Voyez, bien aimé. Chaque fois que l'ennemi veut troubler la vie d'un homme, il le garde dans des vêtements de lamentation. Et lamentation. J'ai une cousine qui est tellement pleurée, elle pleure pour rien. Elle pouvait rester comme ça. Quand tu l'as dit, monsieur, mon père qui est présent, comment? Donc tu manques quoi faire pour pleurer tout le temps? C'est de la raison tu arrives comme ça, elle côté de toi, tu l'appelles et puis tu lui racontes un peu une histoire, c'est de, elle a pleuré plus que toi. Elle m'a dit que ça lui rappelle trop de souvenirs. Alléluia. Mais quand on est attaqué ou enveloppé des vêtements de pleurs, cette personne ne connaît pas la joie. Cette personne ne connaît pas ce que c'est qu'on appelle la joie. Alléluia. Cette personne reste en permanence dans les pleurs et dans les lamentations. Job 16, c'est ce que nous venons de lire. Il dit, les pleurs ont altéré mon visage. Les pleurs ont détruit mon visage. Détruit mon visage. Quand tu es un champion des pleurs, même ton visage, les pleurs. Alléluia. Petit jour, ma vie, où tu, oh, vraiment, je ne prends rien, vraiment. La laideur. Job dit que les pleurs ont altéré mon visage, ont détruit, ont déformé mon visage. Bien-aimé, tu pleures quoi? Il y a qui sur la terre que les pleurs ont changé son histoire? Alléluia. Alléluia. Tu pleures, tu te rends malade. Tu te rends malade. Chaque jour, tu pleures, tu maigris. Chaque jour, tu pleures, les gens disent, tu es malade. Vous n'avez jamais constaté ça. Hein? Quand tu finis de pleurer, tu sors, la première personne qui te rencontre, tu dis, ça ne va pas, tu es malade. C'est comme si tu sors d'un long palu. Qu'il faut boire les feuilles. Hein? Alléluia. Il faut un peu tester les feuilles. Parce que vraiment, quand c'est dans le sang là, les feuilles, c'est efficace, ma soeur. Alors que toi, tu sais que c'est pareil, tu pleures trop. Tu pleures, point rien. Ton mari parle, tu pleures. Ta femme parle, tu pleures. C'est pas le problème. Petite chose, situation. Vous pleurez parce que l'ennemi a gardé la banque de souvenirs de vos échecs du passé. Et chaque fois que vous êtes dans une situation déterminante dans votre vie, il renvoie le film. Tu revois le film. Directement, quand tu pleures, tu rentres dans le passé. Et tu deviens prisonnier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que la joie est un médicament pour les os. La joie. Et vous savez, les pleurs provoquent l'amertume. L'amertume. Et l'amertume est un poison pour l'âme. Alléluia. Paul nous met même en garde contre l'amertume. Il nous met en garde. Ils nous mettent en garde. Vous allez voir des gens qui ne connaissent pas sourire dans leur vie. Ils ont toujours le visage comme si c'est le caillou. Alléluia. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc, tu n'as aucun événement dans ta vie que tu peux te souvenir et sourire aussi de manière permanente. Alléluia. Et sourire de manière permanente. Oh, tu es toujours amer. Amer. Amen. Et quand tu es amer, tu n'es pas dit de bonnes paroles aux autres. Tu ne dis que des paroles bizarres, sans sens, sans pertinence. Éphésiens chapitre 4, verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent. Et j'aime le Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ne se prive de quoi? Ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. Et il continue en disant, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise quoi? Du trouble. Du trouble. Quand tu pleures, l'amertume, ton cœur est dans le trouble de manière permanente. Il dit de produire de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Bien aimé, l'amertume, c'est un poison. L'amertume, c'est un cancer. C'est un cancer qui peut empoisonner même tes connexions, même tes relations, même les personnes qui t'aiment vont être empoisonnées. Quand tu es une personne qui est toujours dans une histoire du passé et que tu te maries, tu vas détruire ton partenaire. Quel que soit le niveau d'amour qu'il aura pour toi, il va devenir plus amer que toi. Parce que tu l'as contaminé. Tu l'as infecté. Tu ne lui as pas donné la joie, mais tu lui as donné les pleurs et les lamentations. Vous savez, l'intimité que vous avez dans vos maisons, là, mais vous ne transmettez pas seulement à l'enfant, hein, vous transmettez aussi votre état d'âme. Et si l'autre est joyeux, si l'autre est venu joyeux, il va devenir triste et amer. Parce que c'est vous qui l'avez contaminé, infecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Infecté. Si dans ta vie, tu ne connais pas sourire pour tout et pour rien, et que demain, tu t'engages dans une relation et tu attends que l'autre fasse toujours manola pour que tu ris, tu es mort. Tu me fais rire. Il faut que je ne fais pas rire. Tu ne me fais pas rire. Non, non. Il est toujours joyeux. C'est écrit. Il n'a pas dit que ton mari ou ta femme te rend toujours joyeux. Sois toi-même, toi-même. Tu es l'agent. Alléluia. Moi, en tout cas, je suis toujours joyeux. Que ça fasse comment, oh? Rien ne peut voler, même pas toi. Soit l'énervement que tu peux arriver dans ma vie, ça ne change pas ma joie. Alléluia. Je m'énerve après le soir et je suis content. Alléluia. C'est mon secret. C'est mon secret. Je contamine ma vie. Quand j'ai connu le Christ, non. Le type s'il va mourir avec la crise cardiaque. Très jeune, on m'a dit, vécu ici un bon gars. Je commence à l'infecter avec ma joie. Infecter. Plus je mettais l'antibiotique contre la tristesse, ça sortait par ses oreilles, ça sortait par sa bouche, ça sortait par son nez, ça sortait par la sueur. Tout ça sortait et la joie prenait place. Aujourd'hui, elle rit pour rien. Mais aujourd'hui, j'ai même besoin de faire une blague, elle est d'arri. Je sors seulement comme ça de la douche. Elle rit. Quand j'entre à la maison comme ça, quand je rentre même d'église, elle ouvre la porte. Ah, dis donc. Tu n'as même pas besoin de trop bavarder parce qu'il y a une sémence. Il y a une sémence qui fait que la maison est toujours remplie de joie. Ok, vous ne vous engueulez. Non, ça engueule. Mais après, on rit. Alléluia. Alléluia. Au début de notre mariage, quand maman me boudait, c'était un mois. On a réduit. J'ai réduit. Un mois, c'est fini à trois semaines, deux semaines, une semaine. Mais quand ça ne fait pas une heure, quand elle poudre, tu dis, okay. Alléluia. Tu poudre, ok, tu es David mourir, maman. Elle éclate seulement de rire. Mais laisse ça. Lève-toi. Tu veux voir la glace, non? Avant, tu prends la glace, donc. Je suis fâché. Je vais te dire. Je dis, alors. Dis alors. Alléluia. Et oui, vraiment. Chose que. Ne me regarde pas, je vais rire. Donc, tout est là-bas. Crée ton propre environnement. Crée ton paradis. Crée ton paradis. Or, si tu laisses le vêtement de les pleurs, ça va détruire ton environnement. Ça va détruire. Ça va introduire dans ta vie l'amertume. Ça va introduire dans ta maison la maladie. Les voleurs vont entrer, voler même toute votre provision. Même si vous avez 1 milliard d'argent dans votre maison, le voleur va tout prendre. Mais si la joie, même avec 5 000, vous êtes heureux. Quand il n'y a pas la joie, même si vous avez 1 000, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux. Mais quand vous êtes en joie, 5 000, vous ne serez pas. Il arrivait de faire que 2 000 à la maison, il manque. Il dit, donc, on fait comment? Elle dit, ah, je ne sais pas. Elle dit, dis donc, lève-toi. Allons de chez maman à Sola qui fait le poisson brison, ça sort, on mange. Elle dit, chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas mon problème. La Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. On pense à soi. Donne-lui son poisson et prends ma part. On mange, on rend grâce, on rentre en riant. Le lendemain. Quand on a les 2 000, j'ai gardé d'abord 2 000 à côté. Parce que je la connais. Le matin, elle m'a dit que c'est comment? Quand elle prend les 2 000, elle met dans sa poche. Mais elle dit, tu vas faire comment? Je dis, non, pas. Jésus au contrôle. Elle a joué là le Seigneur pouvoir. Parce qu'il y a un fondement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève-toi, on va prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette délivrance. Je te rends grâce pour cette révélation que tu m'as apportée ce soir, alors que je m'apprête à prier. Lève-toi en ma faveur et déconnecte-moi de tout vêtement maléfique que m'a cousu l'ennemi. Au nom Jésus, tout vêtement de mort et de deuil, attaché à ma destinée, attaché à mon histoire, attaché à ma maison, attaché à mon futur, attaché à ma gloire, prends feu!